Le sacristain, Alain Kardec, est heureux une fois de plus d'échanger avec vous sur un sujet aussi vaste que passionnant, le spiritisme. Cet après-midi, nous aborderons le thème de la vie des esprits dans l'au-delà. Dans un premier temps, nous évoquerons les bases sur lesquelles s'appuie notre philosophie, codifiée par Alain Kardec et les autres pionniers du spiritisme. Puis nous aborderons brièvement comment nous communiquons avec l'au-delà, les différentes médiumnités pratiquées dans notre association. Enfin, l'essentiel de cet exposé portera sur la vie des esprits à travers des extraits de messages reçus en séance et qui vous feront entrevoir cette réalité spirituelle et surtout l'incessante activité qui y règne. Qui était Alain Kardec ? Alain Kardec est enseignant de disciple de Pestalozzi, pédagogue suisse. Il travaillera 30 ans à l'éducation des enfants de France avant de se consacrer, dans les 15 dernières années de sa vie, au principe du spiritisme. Avant cela, il obtiendra ses baccalauréats S lettres et S sciences. Il aurait poursuivi des études médicales et même présenté sa thèse avec brio. Membre de plusieurs sociétés savantes, il écrit quelques ouvrages sur la pédagogie, considérant l'instruction publique comme la chose la plus importante pour un pays. Toutes ses connaissances acquises en différents domaines ont fait de lui un homme de science, doté d'un esprit d'analyse, de rigueur, de méthode. Dans ses études et travaux, il manifeste un intérêt tout particulier pour le magnétisme. En 1854, dans le cadre de ses recherches, il fit la découverte du spiritisme. Cependant, fort de son esprit cartésien, il est au début sceptique. Il dit, en parlant des tables tournantes, « J'y croirai quand je le verrai, et quand on m'aura prouvé qu'une table a un cerveau pour penser, » des nerfs pour agir, pour sentir, et qu'elle peut devenir somnambule. Jusque-là, permettez-moi de n'y voir qu'un conte à dormir debout. Après quelques mois de participation à différentes séances de table tournante, face aux manifestations physiques, le doute pour lui n'est plus permis. Voici ce qu'il dit. J'entrevis toutes ces futilités apparentes et l'espèce de jeu que l'on faisait de ces phénomènes quelque chose de sérieux et comme la révélation d'une nouvelle loi que je me promis d'approfondir. Il décida de poursuivre le conseil de son guide, rencontré lors d'une séance par l'intermédiaire d'un Ouija, de s'atteler à un travail colossal, celui de collecter et d'étudier les informations reçues dans le monde entier par des médiums ne se connaissant pas et qui pourtant recevaient de l'au-delà des réponses philosophiques semblables concernant la vie après la mort, les conditions de notre existence et du retour à la vie physique, ce qu'on appelle la réincarnation. Cette philosophie fut résumée en ces termes par Alain Kardec. Naître, mourir, renaître et progresser sans cesse, telle est la loi. D'autres pionniers s'inscrivirent dans la lignée, tels Gabriel Delanne et Alexandre Delanne père, Gustave Gelet, Léon Denis, Camille Flammarion, William Crookes, Victor Hugo, Arthur Conan Doyle et tant d'autres.
Quel est le but de notre association ? Depuis 1974, le cercle Alain Kardec communique avec les esprits dans le but de faire découvrir ou redécouvrir la philosophie spirite, à savoir la vie après la mort, la possibilité de communiquer avec les esprits, la réincarnation, le but de l'évolution, Dieu ou la force créatrice. Comment communique-t-on avec l'au-delà ? Pour communiquer avec les esprits, il faut un médium. Qu'est-ce qu'un médium ? C'est une personne ayant une sensibilité lui permettant d'être l'intermédiaire entre les vivants et les morts. Il existe différentes possibilités de communication avec l'au-delà, donc, différentes médiumnités. Voici les principales. L'écriture automatique, l'esprit utilisera le bras, la main du médium, pour délivrer son message par écrit. Le Ouija, c'est une planche sur laquelle sont inscrites les lettres de l'alphabet, ainsi que les chiffres de 0 à 9 et le mot oui et non. L'esprit dirigera la main du médium posée sur une planchette munie d'un aiguillon pour indiquer les lettres et ainsi former des mots, puis des phrases et enfin tout un message. Les participants dans cette forme de communication ont la possibilité de poser des questions à l'esprit qui se manifeste. Le sommeil magnétique. C'est un sommeil provoqué par une passe magnétique sur un médium qui va alors s'extérioriser de son corps charnel et son esprit va transmettre par la parole ce qu'il voit, perçoit ou entend. Cet état permet soit la lecture de vies antérieures, soit le contact avec l'au-delà. L'incorporation. L'esprit va utiliser la totalité du corps physique du médium. Après une phase de transe, l'esprit du médium, accompagné de son père esprit, quitte son enveloppe charnelle, ce qui va permettre à un esprit désincarné d'intégrer provisoirement ce corps laissé vide. Il a alors toute possibilité de se mouvoir et de s'exprimer verbalement. La clairvoyance médiumnique, c'est une perception extrasensorielle qui met en rapport le sujet clairvoyant avec le monde de l'au-delà. Il n'y a pas d'échelle de valeur entre toutes ces médiumnités, car tout mode de communication, s'il est bien développé et bien pratiqué selon certaines règles précises, permet aux esprits de s'exprimer et d'apporter des informations. Il ne faut pas non plus oublier que la manifestation des esprits se fait selon leur propre volonté. Nous n'appelons aucun esprit en particulier. C'est l'expression de leur désir ou pas de se communiquer.
Qu'est-ce que l'au-delà ? Ce n'est pas un lieu, pas une géographie qui pourrait déterminer à tel ou tel point de conjonction ou de distance de la planète. L'au-delà est simplement un état nouveau de l'esprit qui vit en dehors de la chair, qui vit au-delà de la matière et de ses lourdes vibrations. La vie de l'au-delà est donc une vie de l'immatérialité et en cela ne peut ressembler à la nôtre. Il existe cependant un état similaire à nos deux mondes qui est celui de la psychologie, psychologie de l'esprit, psychologie des esprits qui étaient incarnés auparavant sur notre globe. Dans le vaste éventail de l'évolution, il existe donc une échelle spirit qui regroupe les bons et les mauvais esprits, les esprits plus évolués que d'autres qui sont les esprits de l'instruction, de la recherche et du savoir. Les esprits qui accueillent l'âme des désincarnés récents, nous en verrons quelques exemples. Les esprits folâtres, farceurs, inconscients. Les esprits artistes, esprits qui formulent dans leur ensemble leurs désirs, leur travail de pensée. Depuis l'au-delà, les esprits ne perçoivent pas tous la matière et les sons de la même manière. Ceux qui restent proches des vibrations de la matière terrestre, ceux qui sont dans le trouble ou qui sont mauvais, l'aperçoivent comme nous pouvons l'apercevoir. Les autres, plus évolués, l'aperçoivent dans sa totalité, autant par les sons, les couleurs et les formes. Cela signifie qu'ils voient de l'ultraviolet à l'infrarouge et au-delà, qu'ils entendent de l'infrason à l'ultrason et au-delà. Quand on forme, ils les discernent dans leur radiance, prolongement de l'espace dans sa totalité, avec son aura vibratoire. L'au-delà n'est pas statique. L'esprit y apprend et continue par conséquent d'évoluer à l'état désincarné. Mais il n'en est pas de même pour tous, car cette évolution dépend de la nature de l'esprit, de la nature de son individualité, de la nature de son caractère. Il nous faut tout d'abord aborder le passage de la vie physique à la vie dans l'au-delà.
Le passage. Pour atteindre cet au-delà, il faut l'arrêt définitif des fonctions vitales de notre corps physique. Lorsque nous mourons, l'arrêt du cœur provoque l'impression d'une chute en arrière dans un mouvement circulaire. ce mouvement circulaire de forme elliptique est le mouvement initial de la vie terrienne, car l'ADN, dans sa forme hélicoïdale, rappelle ce mouvement. Ce mouvement est en forme de descente. Il dure plus ou moins longtemps, selon l'entité. La fin de ce mouvement se traduit par la rencontre d'un tunnel long et étroit, éclairé par une lueur jaunâtre, semblable à celle que pourrait produire l'électricité. Nous savons que certains esprits pénètrent le tunnel, d'autres non. Lorsqu'il est pénétré, il débouche sur une couleur bleuâtre, semblable à un ciel d'azur. À ce moment-là, l'esprit est certain de retrouver son guide et ce qu'il a aimé. Des esprits viennent à lui. Il est aveuglé par la lumière qui s'atténue peu à peu. Alors les formes deviennent plus précises et l'esprit reconnaît les siens. Mais ce qui est extraordinaire, par-dessus tout, c'est qu'il voit des visages qu'il avait oubliés sur Terre et qu'il reconnaît. Par exemple, un père, un frère, une amie, connue dans ses vies antérieures. La seule vue d'un de ces visages est le déclic de la mémoire tout entière. L'esprit prend alors conscience de son état spirituel. Et les vies antérieures, vie après vie, reviennent brusquement à la surface. Message d'un esprit reçu en janvier 1984. Quand tu parviens au bout du tunnel, tu ne sais pas exactement ce qui va se produire. Tu vois distinctement des personnes qui s'approchent. Tu reconnais certaines d'entre elles, des amis ou des parents. Elles sont entourées d'un halo blanchâtre qui détermine leur corps. Tu avances avec un peu d'angoisse. Tu as peur de tomber dans le vide. Tu ressens de la méfiance. Tu ne sais pas et tu te demandes si tu rêves. Et puis, arrive l'instant de la conscience. C'est un réveil brutal en deux mots. Je suis mort et je vis. Alors tu comprends tout. Tu te découvres totalement. Le temps n'existe plus. Les vies antérieures jaillissent comme des geysers de conscience. Et si tu as l'amour au cœur, c'est la fête. La méfiance cède la place à la joie, à la confiance. Surtout lorsque l'ami vient te tendre les bras en riant et en te disant « Tu vois, c'est simple, c'est juste, il suffit de se laisser porter par lui. » Il te guide et avec lui tu marches sur les nuages en découvrant l'au-delà.
Voici un autre témoignage sur le passage de la vie physique à la vie spirituelle d'Allan Kardec. C'était une séance d'incorporation qui s'est passée en janvier 1990. Bonsoir, amis spirites, bonsoir. Je m'incorpore en cette soirée pour, avec vous, me souvenir d'un terme, d'un passage qui est essentiel pour tout être humain incarné sur la planète Terre. Au mois de mars 1869, un après-midi vers 17h, je m'attardais à compulser quelques revues spirites, alors apparaître pour le mois suivant. Je vis alors aux côtés de mon épouse, Amélie, passage Sainte-Anne, rue Le Courbe. Soudain, une douleur violente envahit ma poitrine. Alors je m'écroulais, inconscient, pour les amis qui m'entouraient dans cette circonstance et qui allaient devenir ma mort, qui allaient devenir ma désincarnation. Je continuais à compulser les revues spirites, comme si cet événement n'était point arrivé. Puis me sentis de plus en plus léger, pour enfin voir mon enveloppe charnelle à terre, inanimée. Je revois encore, en évoquant cet instant suprême, mon ami Alexandre Delanne, tentant de me réanimer par des passes magnétiques transversales. Alexandre Delanne était, en effet, un excellent magnétiseur. Devant le spectacle de mon enveloppe charnelle inanimée sur le sol, je pris peur et je connus une certaine angoisse, celle du trouble évident, du trouble naturel que chacune et chacun peut connaître à l'instant de sa désincarnation. Puis je réalisais progressivement que malgré les efforts d'Alexandre, il ne serait plus possible de réintégrer le corps. Je distinguais alors fort bien un cordon brillant reliant le plexus de mon enveloppe charnelle à mon double fluidique. Je distinguais fort bien au niveau de cette énergie lumineuse un trou, une coupure, qui ne faisait aucun doute sur mon nouvel état de désincarné. Alors, je quittais la pièce en m'élevant doucement, dans l'espace. Alors, je pénétrais un long tunnel large, me dirigeant avec certitude vers celles et ceux qui m'attendaient, vers mes parents terrestres, vers mes amis spirites, vers tous ces amis qui, par la force de leurs pensées, avaient su émettre à l'intérieur du tunnel qui conduit au bout des esprits, au monde des esprits, une musique de Bach qui a pour titre « Jésus, que ma joie demeure ». À l'issue de ce tunnel, dans l'azur qui m'était offert, je reconnaissais mes parents désincarnés. Je reconnaissais aussi tous mes amis spirites désincarnés avant moi. Et puis, un peu plus loin, vêtus de leurs robes blanches, mes amis d'autrefois, les druides de l'invisible, anciens druides de Bretagne, qui s'en venaient pour m'accueillir. Et puis, au-dessus d'eux, l'esprit de Zéphyr, qui ne cessait de me répéter « Mon frère, tu deviens libre, tu deviens libre, tu deviens libre et tu le vois, car tu le savais auparavant, tout continue. »
Autre témoignage d'un esprit sur son passage et l'accueil dans l'au-delà, message de Diane Fausset reçu en écriture en octobre 89. Savez-vous, mes chers amis, qu'il existe dans l'au-delà une solidarité animale qui accueille certains esprits et qui peut les dégager de leurs troubles consécutifs à la désincarnation ? J'ai été assassinée par des braconniers alors que depuis de nombreuses années, avec mon époux, je défendais la survivance et la sauvegarde de la faune. Mon mari est décédé avant moi, assassiné lui aussi par ces mêmes chasseurs de bêtes sauvages, à toute fin de les utiliser, de les revendre dans un but lucratif. Nous avons été sauvés, John et moi, par ces mêmes animaux que nous défendions. Cela fut formidable et je veux en témoigner. L'agression subie m'a jeté dans un trouble profond, dans un cauchemar douloureux et répétitif. Je ne savais pas ma mort, je l'ignorais. Je souffrais des derniers instants vécus, lorsque j'entendis des plaintes et des rugissements bien connus de ma personne. Ces animaux, en grand nombre, s'avançaient vers moi, au fond d'un grand tunnel. Mon mari les accompagnait. Je sortis peu à peu de ma torpeur dans cette reconnaissance familière. L'amour que j'avais donné à ce règne m'attendait dans le partage amoureux et éternel. Mes amis, je suis heureuse de mon travail accompli pour le bonheur des animaux. C'est la mission de certains hommes sur cette terre. Et elle a sa raison d'être. Elle n'est ni supérieure, ni inférieure à une autre mission. L'essentiel étant de se réaliser dans ce que l'on avait entrepris, engagé, décidé avant le retour.
Qu'est-ce que le trouble ? Si le tunnel n'est pas franchi, c'est la continuité du mouvement circulaire et la naissance d'images relatives à la vie charnelle. C'est ce que l'on nomme le trouble. Les sentiments qui dominent sont la peur, le doute et l'amertume. L'esprit voit ce qu'il refusait de voir sur la terre, ses défauts, ses mensonges. Son cauchemar peut durer très longtemps et donner lieu à des manifestations de hantise sur la terre. Ce phénomène est assez répandu, car il y a encore beaucoup d'entités qui ne pénètrent pas aisément le tunnel. Depuis des millions d'années, l'esprit vit sur cette planète. Depuis des millions d'années, la souffrance, le crime, la guerre, la faim, les tortures, les larmes sont les troubles des vivants à l'intérieur de la matière et de l'incarnation. Cette infériorité entraîne un état non moins inférieur dans le monde des esprits. Au-delà, qui ne changera que lorsque notre planète sera transformée dans sa totalité, dans sa globalité spirituelle, quant aux esprits qui s'y réincarneront. Il ne faut pas mesurer le trouble dans sa temporalité relative, par exemple plusieurs siècles pour certains esprits, mais davantage pour comprendre les causes. L'esprit vit au-delà en fonction de son état d'esprit, et donc le trouble est vécu de multiples façons, selon la psychologie des esprits. Mais nous pouvons entrevoir certaines généralités dans les causes du trouble. La psychologie de l'esprit, son caractère, ses défauts, l'orgueil, l'égoïsme, l'ignorance, les phobies, ses croyances religieuses, son mode de pensée, ses considérations sur la mort, son niveau d'évolution, la façon dont il est mort. Les morts brutales occasionnent souvent un trouble profond, un accident, un meurtre, un suicide. Voici une description reçue en sommeil magnétique nous permettant d'appréhender ce trouble. Nous descendons, c'est gris, c'est froid, j'entends des plaintes, je vois plein d'esprits dans l'espace, c'est tout gris, ils tournent, ils basculent, il y en a qui crient, d'autres qui s'insultent, il y en a même qui se battent. Tout autour, un peu au-dessus, dans la blancheur, je vois les guides, ils sont là, ils tentent d'appeler, mais les autres continuent de crier, de s'insulter. Ils ne veulent rien savoir. Certains semblent effrayés, ils ne me voient pas, ne me ressentent pas. Plus bas, je vois un homme, comme à plat ventre, les jambes et les bras écartés dans une tunique blanche. Il est brun, et il tourne. Je descends plus bas, je m'approche pour mieux le voir. Il suffoque, on dirait qu'il étouffe. Il a des yeux qui font peur, grands ouverts, exorbités. Il n'arrête pas de tourner. Il est pris de secousses de temps en temps, comme si de l'électricité traversait son corps. Voici une autre description d'autres esprits dans le trouble. Le bruit des tambours résonne au fond de leur cœur. Ils avancent péniblement sur les marches de l'échafaud. Et devant eux se dresse comme une femme fière et impitoyable la guillotine. La guillotine dont le coup purée va tomber. L'âme va brusquement se trouver plongée dans un trouble profond. Ils sont des milliers dans cet état, plus ou moins bons, plus ou moins évolués. Ils sont des milliers. Un autre message, je vois un homme qui tourne. Il n'arrête pas de tourner sur lui-même. Entouré d'images pieuses et de cierges, il n'a pas compris. Il est dans le trouble. Sa dévotion est à l'origine de son trouble. Il était trop attaché aux artifices de l'église et ne s'en remet pas. Son esprit hante l'église du cimetière où il fut enterré.
Autre témoignage de Marcel Soulier, un parent décédé d'un spirit, reçu en écriture en octobre 88. J'avais mal, j'avais très mal. Je sentais une grande brûlure dans mon ventre. J'appelais au secours, mais je ne pouvais pas parler. Une main lumineuse est venue se poser sur ma poitrine et j'ai reçu une grande chaleur dans tout mon corps. Alors j'ai ouvert les yeux et j'ai vu au pied de mon lit un homme en blanc avec des cheveux longs qui me souriait. À force de le regarder, je me suis endormie comme hypnotisée. Alors je suis tombée dans un puits froid et gluant. J'avais peur. Puis soudain, une image m'est apparue. J'ai vu Patrick qui faisait une ronde en donnant la main à d'autres personnes. Ma chute s'est arrêtée aussitôt. Une musique douce m'a complètement envahie. C'était comme des petits marteaux qui tapent sur des verres en cristal. Je ne tombais plus. Je marchais. Dans un long couloir sombre, mais la musique me rassurait. Soudain, j'ai retrouvé le visage de l'hôpital, mais cette fois c'était différent. C'était Maxence, mon guide. Je l'ai reconnu et j'ai compris que j'étais mort. Je me suis souvenu de Patrick et de ses sornettes à propos des esprits. Je me suis souvenu de certains rêves qui m'annonçaient mon départ et dont je n'ai jamais parlé. Alors je me suis dit, que de temps perdu, et j'ai pleuré. Ce que Patrick doit savoir, c'est que maintenant je réalise qui je suis et qu'avec d'autres, des amis retrouvés, je vais m'instruire sur les conseils de mon guide. Maintenant que tout recommence, je vais apprendre à mieux vivre. Fin du message. Un autre conseil pour aider ces esprits souffrants nous est donné en séance spirit. Chaque soir, avant de vous endormir, pensez fortement à votre voyage dans l'invisible, à votre décorporation. Pensez fortement que vous allez pénétrer dans le tunnel et que les âmes souffrantes qui n'ont pas encore trouvé l'issue pourraient être aidées par votre force, par votre présence, puisqu'elles sont encore si proches de la nature humaine. Agissant de cette façon, chaque spirit participera à l'évolution plus rapide des âmes dans l'au-delà, à la fin de leurs troubles. En effet, chaque nuit, à raison d'environ 2 heures non consécutives, nous quittons notre enveloppe charnelle pour aller rejoindre notre au-delà, pour épuiser une force fluidique et y rencontrer aussi notre guide et d'autres esprits familiers. Nous pouvons aussi le plus souvent possible faire une chaîne fluidique pour nos proches, nos amis, pour toute personne décédée, c'est-à-dire des prières collectives pour aider au passage de ces âmes troublées. Il faut se donner la main pour former un cercle de plus de 3 personnes et penser durant 2 ou 3 minutes à cette personne en envoyant des pensées d'amour, de force, et elle a poussé vers son guide, vers l'au-delà.
Le trouble a-t-il une influence sur notre monde incarné? Certaines entités, mauvaises ou dans le trouble, pénètrent plus facilement nos sphères physiques. Elles n'ont pas ce possible contact avec des esprits supérieurs. Alors, elles restent proches de la Terre. Et lorsqu'elles ont conscience de leur force pensée sur les humains, elles ne se privent pas d'essayer de les influencer dans le mauvais sens. Voici un extrait de message reçu en juillet 1980. Il arrive que certaines personnes soient prisonnières de possessions subtiles et éparses provenant du monde désincarné. Ceux qui demeurent les victimes de ces influences astrales sont cependant des êtres pour la plupart du temps peu évolués. Des êtres qui savent se mouvoir sur ce globe de violence et de mépris pour leurs frères de chair. Il devient donc particulièrement aisé à certaines consciences malsaines désincarnées de pouvoir intégrer de manière fluidique les penchants exercés de manière naturelle par leur esprit frère incarné. Il est à souligner que la délivrance de ces esprits troublés et mauvais est un des autres objectifs primordiaux que s'est fixé notre association Spirit. Délivrer le bas astral, c'est un acte de solidarité envers ces esprits en souffrance, mais c'est aussi un acte libérateur pour notre monde incarné qui subit, sans le savoir, ce mal, cette souffrance désincarnée. Pour ceux qui passent le tunnel, quel devenir? Que font ces esprits? Voyons déjà une réponse de Gabriel Delanne sur l'au-delà dans sa globalité. La question, quelles sont les activités des esprits qui ne s'étaient pas distingués par une fonction particulière sur la Terre? Réponse. Mes amis, il est vrai que sur la Terre, certaines entités sont plus remarquées que d'autres. Je ne parle là que d'être authentiquement considéré comme remarquable, et non pas de la définition sociale de la supériorité. Alors, que deviennent, pour reprendre la formule, les humbles et les obscurs? Il faut là aussi considérer plusieurs paramètres. En premier lieu, l'idée de la réincarnation qui fait de l'esprit un être total lorsqu'il redevient esprit. Un esprit peut fort bien avoir connu certaines vies plus remarquables que d'autres. Il faut considérer le monde des esprits comme un univers pleinement actif, sans destruction de niveau, de qualité dans l'action. La principale activité des esprits est d'apprendre, apprendre auprès d'êtres supérieurs qui, ayant achevé leur cycle, entraînent les autres esprits dans leurs connaissances acquises depuis fort longtemps. Une autre activité est celle qui consiste à aider ceux qui acceptent de naître, les autres devant l'être par l'homme. Le monde invisible est un échange télépathique perpétuel auquel il est difficile d'apporter une comparaison humaine. Nous parlons là, bien entendu, d'une infime partie de ce monde, car la majorité des esprits, quant à ceux provenant de la Terre, connaît le trouble. Fin du message. Tout d'abord, pour l'esprit, c'est le moment de faire le bilan de son incarnation et d'envisager la suite de son évolution. Voici un extrait de message d'un esprit qui nous fait part du bilan de sa vie. L'au-delà permet de se retrouver face à soi-même et face à ses idées. L'au-delà permet de comprendre ses erreurs, ses hésitations, ses hypocrisies. Ma femme, Simone, a été pour moi porteuse de mes idées, porteuse de nos idées dans l'acte qu'elle a toujours su leur donner. Elle que j'ai retrouvée aussi et qui m'a mis face à mes craintes, à mes petitesses, alors que je me croyais un grand homme. Ou du moins, au-delà de beaucoup de mes frères en humanité. Acte d'humilité dans l'au-delà, un au-delà qui permet toujours de penser et d'agir dans une réflexion vraie, juste, élargie d'une réalité spirituelle et divine qui embrasse notre âme tout entière, sans pour autant que vous la voyez. C'est une nouvelle situation pour moi. C'est à partir de cette conscience nouvelle que je viens jusqu'à vous et que je désire travailler avec vous, à vos côtés, pour la naissance progressive de la paix en toute contrée. Je suis heureux dans ce message de vous dire que je rejoins ma femme et pour la rejoindre, je rejoins la chaîne de la paix. Avec elle et avec vous, je veux une Russie libre, libre d'une nouvelle dictature, d'une nouvelle prison naissante dans le capitalisme qui se déploie dans la pratique, cachée des sectes de tous bords. Beaucoup d'esprits se donnent pour mission d'aider les entités nouvellement désincarnées.
Voici le témoignage d'un autre esprit, Louise de Villemorin, reçu en semaine magnétique janvier 89. Nous avançons dans un tunnel qui n'est pas sombre. C'est un tunnel bleu, d'un bleu très clair, d'un bleu azur. J'entends des chants, les voix sont aiguës. Ce sont des voix d'enfants. Souriante et lumineuse, Louise de Villemorin vient à notre rencontre. Ces voix que vous entendez, ces chants que vous percevez, dit-elle, ce sont les voix et les chants de mes enfants, je veux dire de tous ceux que j'accueille dans le monde des esprits. Les derniers en date sont ceux qui sont morts dans le tremblement de terre d'Arménie. Vos chefs nous ont aidés, ainsi j'ai pu les accueillir. Bien sûr, je ne suis pas la seule dans cette tâche, mais c'est si bon, si réconfortant de pouvoir les aider, de pouvoir les réveiller au monde des esprits. Je vois maintenant des enfants par groupe. Au-dessus de ces groupes, des centaines et des centaines d'entités, leurs guides. Louise de Villemorin ressemble un peu à une institutrice qui passe dans les rangs, mais elle n'est pas sévère. Elle accueille, elle rassure, elle aime, elle les aime. Les guides ne cessent d'envoyer des fluides bienfaisants pour effacer les angoisses, pour effacer les peurs. Certains enfants crient, appellent leurs parents. D'autres tournent sur eux-mêmes. Ils ne sont pas encore réveillés, dit-elle. D'autres semblent comme paralysés, les yeux ouverts mais fixes. Les chants continuent. S'il faut parler de mesure du temps pour mieux se faire comprendre des hommes, il lui faudra au moins une année pour que ces âmes enfantines puissent retrouver leur intégralité spirituelle et suivre le cycle normal d'une évolution brutalement interrompue.
Voici le témoignage de la fille d'un spirit sur son travail dans l'au-delà en janvier 83. Papa, tu veux savoir ce que je vois? Je vois des visages souriants. J'entends une musique inconnue de vous. Je vois des foules entières qui appellent, qui prient. Je vois aussi des esprits qui se perdent et qui se cherchent. Et je travaille avec d'autres esprits à leur retrouvaille. Papa, je vois des enfants qui retrouvent leurs parents. Je vois des frères qui retrouvent leurs sœurs. Je vois des scènes d'amour vraies, justes et directes. C'est si beau et je vous le souhaite à tous. Et cette musique qui revient sans cesse, c'est aussi la danse des esprits, la danse des éphémères, papa, qui dure et qui s'aime. Nous aurons le devoir de revenir pour nous améliorer. Je suis si bien et si légère. Je suis contente. Ne pense qu'à demain, ne pense qu'à demain, ne pense qu'à demain. C'est cela le plus important. Papa, en moi il n'y a plus de souffrance. Il a le pouvoir de la pensée, il est si grand, si grand. Voici un autre témoignage. Il s'agit du travail de Lyotet dans l'au-delà durant la dictature d'Hassan II au Maroc. Nous sommes au-dessus d'une foule, d'une immense foule, et nous descendons vers cette foule. La foule est attentive, elle écoute. Nous sommes tout près de l'esprit de Lyotet. Il est vêtu d'un drap orange entouré d'une aura bleutée. Il nous regarde fixement. C'est un instructeur de l'au-delà. Il parle à des esprits dégagés de leurs troubles grâce à l'intervention de spirites marocains. Lyotet, avec d'autres esprits, agit depuis l'au-delà pour un Maroc enfin libre et démocratique, pour la reconnaissance des différences dans la tolérance, pour la dignité de la femme marocaine, pour l'épanouissement d'un peuple riche de culture et de tradition qui est empêché de vivre par une caste et par une famille. Fin de message. Ainsi, certains esprits, en raison de leur propre chemin, de leur centre d'intérêt, s'attachent dans l'au-delà à aider, à donner tout leur amour et leur fluide pour l'avancement d'un pays, d'une cause. Voici quelques exemples. Albert Schweitzer pour l'avenir de l'Éthiopie. Steve Biko pour l'Afrique du Sud. Che Guevara pour l'Argentine et Cuba. Mao Tse-Tung et Confucius pour l'Asie. Autre extrait de message reçu en colonne magnétique, l'exemple du musicien Duke Ellington. Nous sommes en face de tout un orchestre et l'esprit de Duke Ellington s'approche de nous pour nous accueillir. Il est très souriant. Il dit « Ici tout devient possible. Ce n'est pas le délire, mais c'est l'expression totale. Nous jouons de toutes nos forces la musique de la liberté. Et partout autour de nous, dans l'au-delà, les esprits chantent, les esprits dansent, les esprits vivent leur rythme et sont heureux. C'est indispensable pour leur donner la force de lutter. Mon peuple esclave n'est pas au bout du chemin de sa peine, que ce soit à Pretoria, à Boston, à New York ou à Washington. Plus ils nous martyrisent, plus nous chantons et plus nous rions. C'est notre force. Je ne me donne pas en spectacle. Je nourris mes frères et je les invite à la révolte. Je vois tous les instruments. Un immense piano couleur ivoire, une énorme contrebasse, des cuivres en quantité, des batteries. Il dit, tout cela c'est pour que tu le vois. Le travail de Duke consiste à aider les esclaves noirs d'Afrique du Sud vivants qui s'échappent pendant leur sommeil. Il dit, je sais qu'ainsi je leur donne la force de lutter. C'est très agréable. La musique est puissante, forte. Je cherche le sol, mais c'est stupide. L'orchestre semble flotter dans l'espace. Ils sont au moins 40. Fin du message. D'autres esprits s'efforcent d'influencer les femmes et les hommes de recherche dans tous les domaines. Découverte, technologie, science. Voici le message de Léonard de Vinci. Tout esprit inventif participe de l'âme. Tout esprit inventif participe de l'au-delà. Tout esprit puise la source de son étincelle, je veux dire l'information qui se concrétise dans sa parole, dans son dessin ou dans son schéma, dans la médiumnité instinctive qui traverse son corps et son intellect. L'intellect de l'inventeur adhère à la fois du corps et de l'esprit. Il est en relation avec l'au-delà comme il est en relation avec les hommes. Descartes a rêvé sa philosophie, Einstein a rêvé sa relativité. Et je rêve toujours dans l'au-delà, avec d'autres esprits qui me sont supérieurs, avec d'autres esprits incarnés ou désincarnés. Car je pense à vos frères de corps, à vos frères de sang qui sur d'autres planètes, dans des techniques nouvelles, mais déjà expérimentées, continuent de m'apporter les fruits de leurs inventions. Sur Terre, quand j'avais pour nom Léonard, je rêvais, je dormais beaucoup. Dans mon rêve, dans mon sommeil, je recevais les images, les schémas, la géométrie, la mathématique, indispensable à la concrétisation de mon invention. Je participe de mon invention parce que je suis un esprit en recherche. Je participe de mon invention parce que je suis un esprit curieux. Mais je ne suis qu'un participant parmi les participants, vivant ou décédé, incarné ou désincarné. Les inventeurs sont les médiums instinctivement conduits par les puissances invisibles ou extraterrestres. Je n'ai pas réfléchi l'avion. Je n'ai pas réfléchi l'hélicoptère. Je n'ai pas réfléchi toutes ces forces. Je n'ai pas réfléchi toutes ces formes à moi seul. Il serait présomptueux de penser le contraire. Et je trouve un peu niais l'admiration qui consiste à dire de Léonard qu'il fut un maître. Léonard a reçu. Léonard a entendu. Léonard a pris ce qu'il fallait prendre au moment où il fallait simplement savoir le saisir. Fin du message. Autre message, celui du chercheur Paul Langevin. Une extrapolation spiritualiste de la science commence progressivement sur la planète Terre à devenir le possible, le supposable, l'envisageable, sans que cela ne gêne pour autant la recherche fondamentale de caractère officiel. Le progrès est donc là, il est présent. Nos esprits ne sont pas, quant à eux, présents que dans la séance spirite. Ils sont présents dans les laboratoires de recherche. Ils sont présents aux côtés de certains chercheurs,
actuellement incarnés sur ce globe, et se manifestent comme ils le peuvent, c'est-à-dire tentent d'influencer ces mêmes chercheurs dans un sens profondément humaniste, qui ne peut être par conséquent que des sens spirituels. Dans le domaine des arts, la création est tout aussi intense. Voici un sommeil magnétique reçu en octobre 1985. Le sens artistique est une vibration spirituelle qui répond aux besoins de l'âme. L'art n'est pas spécifique à votre matière, il préexiste à cette dernière. L'art demeure la fonction essentielle, l'attribut fondamental de l'énergie spirituelle. Il est l'amour et la raison qui s'interpénètrent pour transcender des formes, des sons et des couleurs. Cela donc se perpétue suivant la loi des vibrations éthériques dans l'espace des désincarnés. C'est pourquoi, au rythme de l'univers, les esprits connaissent un bonheur dont vous ne pouvez encore jouir, au son de musique spatiale qui sont propulsés par la seule force d'un amour et d'une intelligence qui n'ont plus les obstacles de la matière devant eux. Fin du message. Autre message d'un esprit écrivain qui vient nous entretenir sur la continuité de sa création dans l'au-delà. Celui de Gustave Flaubert, reçu en 82. Un monde immatériel suppose d'autres formes d'expression littéraire. Ces formes d'expression sont d'ordre télépathique. Mon roman, produit dans le monde invisible, est vécu par ceux qui s'en délectent. Les personnages vivent, ils deviennent réels. Il suffit de les penser pour qu'ils apparaissent. Certains esprits artistes de l'au-delà se donnent pour mission d'influencer par l'intuition ou le rêve des femmes et des hommes à travers leur création artistique. Voici l'extrait d'un poème médiumnique de Jimi Hendrix, reçu par un médium artiste. Je continue là-bas dans le ciel de la vie, de rire et de chanter, de pleurer et d'aimer. Je continue plus tard mon chant et ma guitare, de partir vers demain, de rêver sur les cimes. Autre extrait de poème médiumnique, qui illustre bien cette communion créatrice entre un esprit désincarné et son frère incarné. Voici ce qu'il dit. Maintenant que j'ai pris les rênes de mon avenir, je ne dépends plus que de l'amour. Et quand je te vois me chercher dans la nuit étoilée, sache que je suis bien plus près, à côté de ton cœur, de tes mains d'écrivain qui doivent encore écrire la suite de l'histoire. Toi qui deviens mon moi, je t'aime et veille sur toi, non comme un ange endormi, mais comme un esprit acteur, afin de mettre en scène la perspective de la mort, délivré de sa tragédie. Écris cela, mon frérot. Décidément, je ne suis pas mort, car je vis de ma belle vie. Fin du message. D'autres esprits vont s'efforcer d'aider les esprits sur le chemin du retour à la vie physique. Ils vont leur donner des conseils, de la force, pour leur permettre de se réincarner dans les meilleures conditions. Voici un extrait de Sommeil magnétique reçu en janvier 1985. Je vois beaucoup d'esprits. Ils sont enveloppés dans une sorte de brouillard blanc. Ils semblent attendre quelque chose. Ils ont l'air un peu inquiets. Plus loin, je distingue une lumière très forte qui s'approche tout doucement. Je vais vers la lumière. Je vois à présent l'esprit d'Adrienne volant. Jeune, souriant, brune. Elle me donne la main et nous revenons vers les esprits qui sont en attente. Tous ces esprits connaissent celui d'Adrienne depuis leur désincarnation, ils ne cessent de la suivre et de l'écouter. Ils vont tous se réincarner sur Terre ou sur d'autres mondes, ce qui explique leur angoisse. Adrienne est venue, une fois ultime, à leur rencontre pour les rassurer, pour les entretenir de l'évolution de l'âme, de la certitude de leur avancement, pour leur dire, une fois ultime, de ne pas renoncer d'accomplir leur mission. Elle leur parle comme une institutrice parlerait à ses élèves. Les entités semblent être en paix à présent.
Il n'y a pas un seul aspect de la vie sur Terre qui n'échappe à la vigilance et à l'amour des esprits. Toute cause juste sera soutenue, encouragée par le monde invisible. Même si nous ne parvenons pas à connaître la totalité des actions menées dans l'au-delà, nous pouvons facilement nous rendre compte de l'extrême effervescence qui y règne. Nous sommes loin de la béatitude et de l'inactivité supposée de ce monde. L'au-delà est un monde de continuité et d'action. Et nous avons la chance, par nos communications spirites, d'entrevoir ce foisonnement de vie si rassurant et stimulant. À notre tour, nous pouvons agir sur le plan humain et spirituel. D'ailleurs, les esprits ne cessent de nous inviter à toujours plus d'action, car le fil conducteur demeure la solidarité, quel que soit notre état, incarné ou désincarné. Notre force pensée amoureuse est grande. Il nous faut en prendre conscience, car c'est là tout le sens de l'évolution. Notre exposé est à présent terminé et nous aimerions vous communiquer quelques informations susceptibles d'intéresser ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur la philosophie spirite. Voici quelques ouvrages édités par le Cercle que vous pouvez vous procurer auprès de notre association ou en librairie. À la rencontre des esprits, écrit par Jacques Pécat, ouvrage qui relate tous les événements, les difficultés mais aussi les joies qu'ont procuré 34 ans d'un long parcours spirite. Le Cercle Allan Kardec a également publié un livre intitulé « La délivrance des mondes », écrit par Olivier Fauvel, qui témoigne des délivrances effectuées au Cercle depuis 34 ans. Les esprits et les hommes, un spirit témoigne, écrit par Igor Manoukian, qui relate dans cet ouvrage son parcours spirit depuis plus de 20 ans. Le nouveau livre des esprits, écrit par Karine Châtaignier, et qui vient compléter le livre des esprits, ouvrage écrit en 1857 par Allan Kardec. Son second ouvrage, Ecce Homo, nous raconte la vie de Jésus à la lumière du spiritisme. Et vous pouvez vous le procurer auprès de notre association et sur notre site internet. Et pour finir, nous sommes particulièrement heureux de vous présenter son dernier livre, actuellement en librairie, qui s'intitule « Entre ciel et terre ». Dans ce troisième ouvrage, Karine Châtaignier nous relate certains événements d'une histoire spirite et médiumnique vécue au sein de notre association. Elle y décrit son parcours, sa rencontre avec les esprits et la découverte de sa médiumnité. Le Cercle a mis en place une cellule d'intervention. Si vous subissez des phénomènes de hantise, des manifestations ou si vous voulez apporter vos témoignages sur ce sujet, vous pouvez nous écrire ou nous contacter. Et puis, si vous voulez suivre notre association, son actualité et le spiritisme, nous éditons une revue, le journal Spirit, qui paraît tous les trimestres et que vous pouvez vous procurer ici. Vous pouvez également aller visiter notre site internet spiritisme.com sur lequel nous avons inauguré au mois de janvier 2004 un forum où nous répondons à toutes les questions que peuvent se poser les internautes sur la philosophie spirite. De plus, si vous êtes convaincu par la survivance de l'âme et que vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter, à nous retrouver à notre permanence où nous pourrons vous recevoir tous les samedis après-midi de 14h à 18h. Nous vous rappelons que la prochaine conférence se déroulera le samedi 29 novembre 2008, ici même, à partir de 14h30, sur le thème « Y a-t-il une vie extraterrestre ?» Alors un débat va poursuivre cet exposé. Vous pourrez vous poser toutes vos questions et puis vous nous faire part de votre réflexion, de vos réflexions. Merci de votre attention. Donc on fait une petite pause de 10 minutes pour parler plus loin.